radio Murmure.
Le bruit de fond des campagnes.
Radio Murmure.
On monte le son.
Quand on les a vus arriver, on n'a pas cru qu'ils passeraient l'hiver.
J'ai mis 5 ans pour trouver une terre. Au début, on m'a prêté un terrain.
C'est vrai que monter un projet comme ça, c'était osé, mais ça a marché.
Ça nous a un peu bousculé au début, quand ils sont arrivés. Mais c'est pas si mal qu'ils soient là.
On est 8 à habiter sur ce lieu et on a acheté ça ensemble.
C'est comme ça que tout a commencé.
Nous voici dans le sud de l'Ardèche, sur la commune de Chauzon, où un jeune berger vient de s'installer sur le plateau.
Ben, Jocelyn Arnaud, j'ai 27 ans et je suis berger, 28. Et je suis berger, voilà. Éleveur.
Donc tu faisais quoi avant? C'était quoi ton parcours?
Juste avant de m'installer à mon compte, j'étais berger salarié pendant 5, 6 ou 7 ans. Avant ça, j'ai fait des études dans l'environnement. Mais après, l'environnement, ça me plaisait pas trop. Il y a trop de bureaux, trop de... Quoi, c'était pas très sain comme milieu. Et après, encore avant ça, une scolarité, quoi, normal. Ouais.
Ouais. Donc quand tu faisais environnement, t'as fait une formation pour devenir éleveur ou pas du tout?
Non, j'ai fait un bac STAE, donc qui donne juste des petites bases de rien du tout sur l'élevage. Après, je me suis formé sur l'élevage en étant salarié. Et le BTS, c'est un truc sur la gestion des espaces naturels. C'est ce que je fais aujourd'hui, quoi, mais de manière libre, quoi.
D'où tu viens? Est-ce que t'es ardéchois ou tu viens d'un autre département?
Je viens de la Drôme.
Pourquoi t'es venu t'installer en Ardèche?
Il y avait la place. Et après, il y avait des difficultés ici, c'est pour ça qu'il n'y avait rien. C'est sur le foncier, sur... Enfin, il y a beaucoup de propriétaires. Il n'y avait normalement pas d'eau. Et pour tout le monde, c'était des pays qui valaient rien pour les brebis. Alors que... c'est des bonnes terres. Les bêtes, elles sont belles, quoi.
Comment tu le savais avant de venir, ça, si t'étais dans la Drôme?
En fait, j'ai rencontré un agriculteur du coin qui m'a branché sur le gras de Chauzon, en l'occurrence. Ouais. Et après, il y a tout ce qu'il faut ici, quoi. Il y a différents milieux, un milieu pour l'hiver, un milieu pour le printemps. Après l'été, je pars en montagne, et voilà, quoi. C'est la troisième année que je suis ici. Au départ, avec ma copine de l'époque, on a passé presque une année à gratter un peu dans le coin. Donc aller voir la commune, aller voir les propriétaires. Après, on a fait un peu des démarches envers la chambre d'agriculture pour voir comment ça pouvait se faire. Et en fin de compte, c'était toujours bloqué, quoi. Il y avait toujours un truc qui allait pas, il y avait jamais rien de fini. Il fallait un projet ficelé, machin, qui économiquement tourne, tout ça. Moi, l'économie, c'est pas trop mon truc. Après, je sais comment ça marche les brebis, donc voilà. J'ai vu qu'il y avait le potentiel sur le territoire. Avoir pas beaucoup d'argent pendant un moment, ça me dérange pas trop, donc c'était pas un souci. Et donc, à un moment donné, j'ai acheté un terrain pour pas être emmerdé. On m'en prêtait d'autres, mais j'ai acheté un terrain pour pas être emmerdé. Dessus, j'ai fait des tunnels de bergerie. J'ai mis des brebis, j'ai acheté quelques brebis. J'avais pas les moyens d'acheter un troupeau entier. Du coup, pour compléter l'hiver, je prends des brebis en garde. Encore aujourd'hui, que le troupeau grossit. Maintenant, il faut que ça suive, quoi. Voilà, du coup, c'est pas un parcours classique, parce que c'était pas un truc... J'ai pas fait de DGA, j'ai pas fait de... Je suis pas endetté. Après, la volonté, c'était aussi ça, c'était de travailler au hockey, mais après, travailler pour les banques, tout ça, pas trop. En fin de compte, là, c'est un troupeau pour la viande, quoi, d'ovins-viande. L'idée, c'est que la brebis, c'est une bête glaneuse, et on va chercher l'herbe où elle est. Donc là, il y a de l'herbe, on fait de la brebis, c'est une race rustique, à faible effectif, qui se débrouille bien sur ses territoires. Et voilà, c'est... Ouais. Enfin, l'idée, c'est de se sortir des systèmes agricoles classiques. J'utilise pas de grains, très peu de foin, donc ça utilise très peu de pétrole. Au final, je sors un agneau à bas prix. Enfin, ils me coûtent presque rien, mes agneaux, parce que j'ai pas de location non plus. Les territoires, il y a 400 hectares, 360 propriétaires. J'occupe juste par accord oral, quoi. J'ai aucune location, aucune... Donc voilà, un agneau social.
Donc comment elles sont les terres ici? Décris-nous-les et pourquoi ça s'appelle le gras?
Alors les terres ici, pour les quartiers divers, c'est le gras. Apparemment, ça viendrait du mot crasse, en grec, je crois. Ça veut dire cramé par le soleil. C'est des terres où rien pousse. Enfin, c'est sec, un peu comme des petits causses. Après, au printemps, j'utilise les berges de l'Ardèche, des zones inondables qui sont pas cultivables. Et voilà, où l'herbe vient bien, du coup, au printemps, pour démarrer les agneaux et tout, c'est bien. J'utilise aucune terre arable, en fait. C'est vraiment des terres où il n'y a pas moyen de cultiver quoi que ce soit, quoi.
Donc si la terre elle est sèche, comme tu le dis, comment t'arrives à nourrir des brebis même enfin toute l'année?
Eh ben sur ces terres sèches, il y a une végétation qui s'est adaptée quoi. On a quand même pas mal de plantes de garrigue qui poussent et sèchent l'été, mais repoussent à l'automne. Après il y a des plantes qui se tiennent en été et qui sont du coup consommables en hiver. Après c'est vachement extensif. Le chargement c'est une brebis à l'hectare pour les 4 mois d'hiver en gros. Donc c'est très peu. Ça c'est vraiment pour les quartiers d'hiver quoi. Ouais c'est de la garrigue et les bêtes, vu qu'elles sont rustiques, elles se tiennent là-dessus, elles restent belles quoi.
Comme pays avait la main. On y mangeait pour presque rien. Pas tous les jours, pas tout le monde, mais c'était pas encore une jungle. Quand mon pays avait du temps, il y naissait des sentiments. Pas tous les jours, pas pour tout le monde, mais c'était pas encore une jungle. Quand mon pays avait des peurs, on se serrait contre nos cœurs. On y caressait les contours. Dans mon pays, il y avait de l'amour. Mais mon pays est devenu clean, tombé dans un verre d'aspirine. Zigzag entre les lois, mais nous n'en sommes plus déjà. Et mon pays s'est fait vitrine à l'heure où les valeurs tapinent. Zigzag entre les lois, mais nous n'en sommes plus.
L'idée du mouton, c'était vraiment ça, c'était de pas utiliser de terre arable, de faire de la brebis de race rustique, si possible, et là c'est le cas, de race à faible effectif et tout, parce que j'aime bien ça, ce truc de conservation. Et en fait, du coup, je cherchais un territoire, je voulais pas pâturer au milieu des villas, ça me plaisait pas, je cherchais vraiment une grande colline, quoi. Ça faisait 40 ans qu'il n'y avait plus de moutons là-dessus. Ouais, du coup, il y a ce truc-là aussi de gérer le milieu, quoi, de gérer cet espace naturel-là, quoi.
T'as un troupeau de combien, donc, actuellement ?
Là, en ce moment, ici, j'ai 400 bêtes. Donc, à moi, j'ai que 100 brebis et une vingtaine de chèvres pour la viande. J'ai un troupeau en pension de gens du plateau, là, qui n'ont pas d'herbe à cette époque. Donc, ils me descendent leurs brebis en pension et ça me fait un peu des sous. Et j'ai le troupeau du voisin, en fait, en ce moment, comme ça, ça leur fait des vacances. C'est une entraide, quoi. Eux, ils ont plus de 50 ans et ils ont besoin de souffler, quoi.
Comment tu t'es déclaré ? C'est quoi ton statut ?
Alors, au niveau du statut, je suis cotisant solidaire. Après, j'ai une couverture sociale parce que l'été, je suis salarié en montagne, donc berger salarié. Et pour les bêtes en pension, c'est une prestation de service.
Comment t'as concrétisé ton projet ?
En coup de main, j'ai eu pour l'accès au foncier en fait, parce qu'il me fallait quand même des autorisations un peu orales des propriétaires. Il y a eu la commune, les chasseurs, de sangliers et tout, qui m'ont quand même aidé, même si pour eux il y a moins de sangliers et tout ça, mais ça leur faisait un peu mal au cœur de voir le pays délabré comme ça. Et après, pour tout ce qui était chantier, tout ça, il y a eu les potes quoi. D'un point de vue chambre d'agriculture, tout ça, il n'y a pas eu trop de coups de main à ce niveau-là. Que ce soit parce que là je suis sur des zones Natura 2000, tout ça, il n'y a pas eu non plus d'aide de la part des gens qui s'en occupent. Enfin pour l'instant à ce niveau-là, c'est non, ça n'a pas bougé, mais peut-être qu'un jour ils viendront me voir ou je sais pas, je sais pas ce qui peut se passer. Enfin le gras, donc le plateau calcaire que je pâture en hiver, c'est classé en zone Natura 2000. Natura 2000, c'est à l'origine, c'est un inventaire des sites naturels sensibles.
Donc comment t'as démarché les propriétaires et t'en es où actuellement ?
Avec les propriétaires, ça va bien. Je les ai démarchés, j'ai été les voir et je leur ai demandé si je pouvais faire pâturer. Donc là, c'est une zone qui quand même brûlait souvent. C'est de la garrigue qui cramait tous les 3 ans. Ça peut quand même brûler, mais il y a beaucoup moins de matière à brûler du fait que ce soit pâturé. Donc les gens sont contents. Ça protège le village aussi parce que si du gras, ça passe dans les bois, ça peut brûler toute leur jolie villa toute neuve là. Et voilà, donc avec les propriétaires, ça se passe bien. Il y a pas mal de rapports avec beaucoup de monde en fait. Oui, enfin, ils sont contents de voir qu'il y a quelqu'un qui fasse quelque chose ici, quoi. Même si, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'ils se disent que je suis un peu marginal à vivre au fond des bois avec mes chiens comme ça, mais ils m'aiment bien, personne ne me pose des bâtons dans les roues, quoi. C'est au contraire, on m'aide, quoi. Après, il y a aussi, en descendant de montagne, voilà, je vais tuer un agneau pour distribuer un peu aux plus grands propriétaires, aux gens qui m'ont filé la main dans l'année. Il y a ça aussi, quoi. Comme là, la mairie, Madame le maire, c'est une personne âgée. En fin de compte, je pense que tant qu'il y a ces gens un peu âgés et tout, je suis tranquille parce qu'ils ont vu le pays comme il était, sans entretien. Après, toute la population qui rentre aujourd'hui à la retraite, qui arrive de la ville et qui construisent des villages aux ongles, eux, je sais pas comment ça se passera plus tard. C'est d'autres mentalités, c'est des gens qui viennent de Lyon, de Marseille. Je verrai plus tard avec ces gens-là comment ça se passera. Il n'y a plus d'agriculteurs, tous les agriculteurs ont ouvert des campings. Et ces gens-là qui ont ouvert des campings, quelque part, peut-être qu'ils ont des remords aujourd'hui, du haut de la retraite.
Pourquoi t'as choisi d'être berger ?
Quand j'étais étudiant, donc dans l'environnement, je suis parti vachement motivé. Et en fait, tout ce truc-là, ça m'a bien dégoûté, en fait. Que ce soit le monde associatif, enfin tout ce qui touche à l'environnement, en fait, ils sont prêts à tout, quoi. Voilà, c'était pas mon monde, quoi. Et en plus de ça, il fallait rester, vu qu'il y avait, ça tourne beaucoup, enfin que sur la subvention, il fallait rester plus ou moins soumis, quoi. Pourquoi j'ai voulu faire berger, je sais pas, c'est venu comme ça. Mais déjà, quand j'étais étudiant, ça me trottait un peu dans la tête. Et j'ai appris sur le tas et en fait c'est une passion, c'est... Ouais, les brebis, ouais, c'est vraiment une passion, quoi.
Et qu'est-ce que ça t'apporte, justement ?
L'astreinte, tout ça, ça a plutôt tendance même à nous bouffer comme boulot, quoi. Mais après, là, je me vois pas faire autre chose maintenant, quoi. Ouais, c'est devenu une vie, quoi. En fin de compte, c'est vachement entier comme truc. On peut toujours progresser, on peut toujours faire mieux. Enfin, j'aurais pu rester berger salarié, mais tant que j'étais berger salarié, j'avais des comptes à rendre. Là, pour le coup, j'ai pas de comptes à rendre. La liberté, c'est ça, c'est de partir le matin avec ses brebis et de battre des territoires qui sont pas occupés, je sais pas. Tu peux pas avoir une liberté gratuite, quoi. Il y a toujours un contre-coup, quoi. Et là, le contre-coup, il est un peu lourd, c'est de devoir y être tout le temps, mais après... Dans mon travail, même si c'est 7 jours sur 7, même si c'est... ça reste... Moi, je le fais par plaisir.
Donc, dans quoi tu vis et comment tu t'es installé ?
Là, maintenant, je vis dans un marabout, à côté des bergeries, quoi. C'est au fond du bois, au fond des bois, au bout d'une piste de 2 km, un truc comme ça, qui est pas trop en état, mais bon, qui est... Ouais. Voilà, j'ai mis les bergeries là, comme ça, moi, j'étais tranquille. Puis ça me plaît, en plus, ce coin. C'est bien, c'est un peu isolé, quoi. Du coup, après, la maison, c'est... Enfin, la maison, c'est... Du coup, voilà, c'est un marabout, c'est une toile de tente militaire, enfin, pour le coup, de colonie de vacances, que j'avais chouré il y a 7 ans à une colonie de vacances, donc de la BNP Paribas. Après, c'est un peu, le sol est un peu isolé, un peu, c'est pas si mal, hein, il y a un poil, ça va.
Et quel regard les gens de la commune ou les autres ils posent sur ton habitat ?
Eh ben en fait, les gens de la commune, ils ne voient pas mon habitat parce qu'il est derrière les bergeries dans le bois. Donc il est un peu invisible. Après, les gens le savent que je vis dans un marabout parce que de temps en temps, quand il y a un chasseur qui traîne ou quoi, je paye un café.
Distance call with the lion man, he said.
Et toi, est-ce que t'es d'une famille de gens de néo-ruraux dans la Drôme, d'où tu connais la nature et d'où tu l'aimes tant ?
J'ai une partie de la famille, des grands-parents, des oncles et tout, qui sont arboriculteurs intensifs. Maintenant, ils ont tout arraché, ils font des céréales. Mais... Du côté de ma mère, c'est plus des fonctionnaires. Après, mon grand-père était braconnier, il braconnait beaucoup, il m'a appris un peu les choses, il m'a montré les oiseaux, tout ça, et c'est ça qui m'a donné la passion de la nature, quoi. Mais lui, il travaille à Rhône-Poulenc, il a fait sa carrière à Rhône-Poulenc, quoi.
Quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées depuis la création de ton projet ?
Des difficultés que les bêtes, tout ça, il y en a, j'en ai eu... Enfin, il y a toujours une paire de couilles sur les bêtes, mais pas tant que ça. Et puis, vu que j'ai fait pas mal de salariat, que j'ai eu pas mal de choses, je sais y répondre. Et après, je connais des gens, si je sais pas y répondre, qui peuvent m'indiquer comment faire. Donc, au niveau technique, sur les bêtes, il n'y a pas tant de difficultés que ça. Au niveau donc du territoire et tout, pour l'instant, j'ai pas de difficultés vis-à-vis des propriétaires, même si j'aimerais bien... Voilà, une des difficultés serait de pérenniser la chose et de créer avec tous ses propriétaires une entité pour pouvoir avoir une location, un bail et que ça devienne durable. Donc en l'occurrence c'est une AFP, une association foncière pastorale. Et la grosse difficulté c'est qu'il n'y a personne en Ardèche qui veut mettre ça en place parce que ça les intéresse pas trop. L'AFP donc c'est une association, donc foncière pastorale, c'est les différents propriétaires qui rentrent dans une association en vue de créer une entité pour que ce soit occupable par quelqu'un quoi, au niveau agricole. par rapport aux difficultés rencontrées, donc il y a aussi le fait qu'il faille se mettre aux normes, quoi, sans arrêt. Donc ces normes, c'est quoi? C'est par exemple, on a été obligé de vacciner les brebis contre la FCO. Donc la fièvre catarrhale ovine, on nous a proposé un vaccin qui était mauvais pour les bêtes, qui était dangereux pour les brebis. On était censé être obligé de vacciner contre ça. Donc il y a eu des procès, tout ça, maintenant ça s'est passé. Donc on a de temps en temps des crises sanitaires comme ça qui pètent quand il faut vendre des vaccins, et on est censé plier à ça. Donc si on veut pas y plier, on nous menace de supprimer les primes, tout ça. Moi je suis assez indépendant par rapport aux primes, par le système que j'ai. Donc je peux me permettre de pas plier. Il y a aussi par exemple la boucle électronique. Donc on est censé mettre une puce électronique à l'oreille de chaque brebis. Ça c'est hors de question. En fait l'idée c'est que quand les brebis après elles passent au couloir, elles fassent bip bip, ça s'inscrit tout sur l'ordinateur et on sait ce qu'on a comme brebis, quoi. Seulement quand on garde son troupeau, qu'on le connaît tout, déjà on n'a pas besoin de ça. Il y a le fait que, ça, pour nous éleveurs, peut-être que ça sert à certains éleveurs qui travaillent en bâtiment, qui travaillent à l'intensif et tout, et peut-être qu'ils comprennent pas leurs bêtes ou qu'ils les connaissent pas, je sais pas, enfin ça me paraît vraiment bizarre. Mais apparemment ça sert à certains éleveurs, mais qu'on nous l'impose, je trouve ça vachement grave, quoi. Alors on nous dit c'est pour la traçabilité, ça va aider dans les abattoirs ça les aide en rien, c'est faux. Ça aide surtout à leur contrôle et tout. Après, pour un type comme moi qui vit sans électricité, le jour où j'ai l'électricité, j'achète une ampoule, quoi, pas un ordinateur, quoi. Enfin, il n'y a absolument aucun intérêt à ça. Le seul intérêt, c'est encore une fois qu'il faut vendre ces puces électroniques, qu'il faut faire fonctionner ce business-là pour arriver à le développer. Et voilà, pour généraliser, en fait, ce système RFID, là, de leurs puces biométriques. C'est assez grave, parce que, voilà, en élevant des moutons, on se retrouve, en fait, à financer ces systèmes-là qui peuvent nous répugner, quoi. Et des obligations comme ça, sous couvert de traçabilité, de ci, de ça. Moi, je fais de la vente directe, la traçabilité, elle est vite faite. Hein. Si un gars malade, il sait d'où ça vient, quoi. Ça se rapproche un peu, encore une fois, de la privatisation du vivant, quoi. Les races, elles sont aux éleveurs, elles sont pas... Et si des gens essayent de s'approprier ça, bah, c'est du voile, quoi. Et tout le temps, faut faire avec ces systèmes. Il y a des trucs qu'on peut pas accepter, du coup, moi, personnellement, j'ai pas mis les puces. Pareil, passer les agneaux forcément à l'abattoir, je trouve pas ça normal. Je pense que le temps de stress dans l'abattoir à côté des cochons, où il faut avancer les bêtes à coups de taser, où ils les arrosent pour que le taser il passe mieux, ou... enfin c'est pas des tasers, c'est des piles, là. Moi ça me fait chier de mettre des bêtes là-bas en fait, du coup je préfère les tuer moi, je sais que c'est clean. Et voilà, donc je le fais comme ça, tant pis. Après, il y a des risques. Par rapport aux puces, le risque c'est qu'on me supprime les primes, mais ça c'est pas trop grave, mais après, voilà, je sais pas jusqu'où on peut aller, ouais. Pour se battre contre ça.
Est-ce que tu mets en place une façon de lutter avec d'autres ici?
Ouais, enfin on aimerait mettre en place des choses, mais c'est pas facile en fait. On a du mal à se rassembler, à se réunir. Mais il y a d'autres gens, ouais, bien sûr, en fait, tout le monde en a marre, quoi. Enfin, il y a un flicage, quoi. Il y a un flicage qui est mis en place sur les éleveurs. Après, la plupart des éleveurs, ils sont dépendants des primes aussi, donc ils ont plus la liberté d'action, la liberté de dire non, parce qu'ils ont peur qu'on leur sucre ça. Si on leur sucre ça, ils coulent, quoi. Il y a un truc qui est grave, quoi. Jamais un éleveur m'a dit « Youpi, c'est super, ils ont encore rajouté un nouveau truc pour nous fliquer, quoi. » Ça, j'en connais pas, quoi. Après, par rapport à la puce, il y a des éleveurs qui, apparemment, j'en ai pas rencontré, mais qui sont contents, quoi, de ce truc-là. Ça leur simplifie, justement, tout système de paperasse, ils bip-bip, ils envoient ça par Internet, mais c'est pas... On va essayer de créer un collectif, en fait. Donc là, le collectif, ça toucherait que des gens qui travaillent soit en ovin, soit en caprin, ça peut être laid. Mais sur des systèmes pastoraux, en vue ouais, de lutter un peu contre ces systèmes qui ne nous correspondent pas, quoi. Mais aussi pour essayer de faire avancer les organismes qui nous entourent, ou enfin voilà, que ce soit la chambre d'agriculture ou autre, pour essayer de faire avancer nos situations, là, que c'est un peu précaire, quoi, comme on travaille tous, là, à squatter à moitié les territoires.
Comment tu imagines les années à venir ici?
L'avenir, comment j'imagine, je sais pas, continuer d'avancer. Après c'est un peu au jour le jour, après on peut se faire plein de choses sur le territoire, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être mises en place et ouais, j'espère pas rester tout seul sur ce truc là, je suis pas tout seul parce qu'il y a ma chérie, mais j'espère qu'il y ait d'autres activités qui se mettent en place ici, quoi, parce qu'il y a moyen de l'entraide et de travailler ensemble.
Radio Murmure, une émission réalisée par Elsa Decour pour Radio Sainte-Afrique, à l'initiative du réseau des CREFAD, financée par la Datar Massif Central et les régions Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes et Bourgogne.